Bien, alors je reprends un peu la, le, enfin, à la fois, je vais complètement, je vais reprendre un peu mon propos d'hier matin, puis en même temps être relativement en rupture avec l'exposé qui vient de précéder, dans la mesure où je vais être vraiment sur un plan cette fois assez pratique, c'est-à-dire que je dirais que d'une part, je vais passer de l'histoire à la mémoire, parce que quelque part, le titre qui nous était annoncé sur l'Espagne aurait pu être aussi enfin, on aurait pu avoir presque le même titre sur la question des mémoires irréconciliables, cette fois centrée sur la guerre d'Espagne. Et donc, on replonge vraiment cette fois dans une dimension de mémoire. Et ce que je vais essayer d'aborder ici, il faut juste que je... si tout va bien, voilà. Donc, ce qui me permet, en fait, en reprenant mon propos d'hier, de vraiment plaider pour... une histoire scolaire qui sache prendre en considération non seulement la distinction entre les phénomènes ou les manifestations de l'histoire, respectivement de l'histoire et de la mémoire, mais qui sache en tirer le meilleur de leurs interactions. C'est-à-dire sans vouloir forcément mettre complètement de côté toutes les manifestations de la mémoire comme négatives, puisque, par exemple, l'une des occultations patriotiques de l'histoire nationale suisse que j'ai évoquée hier, qui était celle sur la question de la Suisse et de la Seconde Guerre mondiale, ce sont bien des manifestations de la mémoire, fussent-elles d'ailleurs un petit peu abusives, qui ont déclenché la possibilité de faire aller l'histoire en avant, de faire développer la connaissance historique et surtout de faire développer la possibilité de sa visibilité dans l'espace social. Donc, alors, bon, tous les cas ne se valent pas. Il y a beaucoup de cas où, au contraire, les manifestations de la mémoire, nous le savons bien, sont extrêmement problématiques pour l'avancée de l'histoire. Mais là, je me situe vraiment dans l'idée de la nécessité d'une distinction et d'une distinction scolaire et de l'intérêt d'aller chercher un peu les interactions entre histoire et mémoire. Alors, je prends ici simplement ce que vous avez derrière moi, c'est à la fois le symbole de ce que j'ai raconté hier, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a une crise en Suisse, on remet les choses à plat, il y a une commission internationale d'experts qui travaille et qui établit un rapport qui donne un certain nombre d'éléments que j'ai évoqués hier. Et puis, il y a une réaction, qui est la réaction de la mobilisation, de la génération de la mobilisation, c'est-à-dire et l'idée qu'il faut donner la parole aux témoins de l'époque pour voir un peu ce qu'ils ont à dire. Notamment parce que l'usage médiatique de cette affaire a eu un peu tendance à parler de la Suisse comme un bloc, et ce qui fait qu'il y a toute une génération qui a dit oui, mais est-ce que nous aussi nous n'avons pas été à la hauteur des exigences morales comme on le dit les autorités, hein, et la distinction entre autorité, élite économique et population n'avait pas suffisamment été faite. Du coup, il y a eu cette expérience qui s'appelle l'histoire c'est moi, c'est-à-dire un groupe d'historiens et de cinéastes qui ont enregistré des témoignages, 555 témoignages, et qu'on en fait une exposition. Et il se trouve, et puis alors là, c'était du tout venant, hein, il y avait un petit jeu interactif qui permettait de choisir l'un des 64 thèmes qui avaient été regroupés pour donner des extraits de ces témoignages, et puis ben, ça donnait une vision de l'histoire à cette époque qui tenait compte, enfin qui dépendait du hasard, qui dépendait du thème choisi, et puis des choix. Des choix construits, parfaitement construits, de ceux qui ont réalisé cette exposition. Et puis il y a eu une tension entre historiens, ceux qui participaient à la commission Berger, et ceux qui avaient participé à cette opération qui s'appelle Archimob, en fait, mais qui a donné lieu à cette exposition « L'histoire, c'est moi ». Et puis on a été quelques-uns, notamment en didactique de l'histoire, à dire « mais c'est intéressant que ces deux expériences existent ». Et peut-être qu'il faudrait dépasser l'opposition entre les deux. Et on a eu l'opportunité extrêmement intéressante de réunir au château de Prangin en 2004 les deux expositions. C'est-à-dire une exposition qui dit, assez abrupte, assez austère, comme vous pouvez imaginer, qui donnait les résultats des travaux de la commission Berger avec beaucoup de choses à lire, enfin, etc. Puis l'autre exposition interactive avec les témoignages. Et puis du coup... On a formé deux, enfin avec une collègue Nadine Fink, on a formé des guides, et puis on a essayé de proposer un atelier avec les élèves. D'abord parce qu'un atelier qui a consisté, enfin accompagné, qui consistait à les guider dans l'exposition et à centrer en fait la partie l'histoire c'est moi sur une série de choix que nous avions fait en amont pour construire quelque chose relatif, enfin un un travail de prise en compte de ce qui distingue l'histoire et la mémoire et de ce qui les fait interagir. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce tableau que j'ai pas le temps de commenter, mais que je pourrais toute façon donner, qu'on pourrait mettre sur le site, enfin, etc. C'est-à-dire que ce tableau a été construit avec des élèves et on a essayé de les faire travailler. Alors après, ça a été c'est un tableau qu'on présente maintenant. Il a été réécrit par les didacticiens, donc c'est plus du tout les élèves qui l'ont écrit. Mais je veux dire, le cheminement pour aboutir à ce tableau, c'est un travail d'atelier dans le cadre de cette exposition. Et c'est vraiment l'idée étant vraiment là de se donner. Alors je vous laisse lire. Je veux pas commenter, sinon ça serait trop long. Hein, mais vous voyez que l'idée, c'est qu'il y a deux logiques différentes qui interagissent, qui ont chacune leur part de légitimité. Et c'est important de le savoir. Et puis, si on construit à travers des situations, à travers des exemples, l'existence, si on fait reconnaître, si on donne à voir aux élèves l'existence de ces différentes postures, de ces différentes composantes, respectivement de l'histoire et de la mémoire, on aura peut-être les meilleures chances de les rendre capables de faire face aux manifestations de la mémoire dans leur sens positif et négatif du point de vue d'un travail. Alors on a suffisamment insisté au cours de ces deux journées sur l'idée qu'il s'agit d'un travail d'histoire ou d'un devoir d'histoire avant tout, mais un devoir d'histoire nourri parce que en tant qu'éducation à la complexité, à la problématicité du monde, nourrit des réalités, de la diversité des mémoires. Alors maintenant, ce que je voulais simplement vous présenter cet après-midi, c'est un projet qui est un projet en cours, il est d'ailleurs même seulement pour l'instant virtuel, et qui s'appelle un projet de maison de la mémoire à Genève. L'idée, c'était, nous étions un certain nombre d'enseignants et de didacticiens qui étions un petit peu gênés par une série de situations observées, par exemple une exposition sur la Shoah dans une cafétéria, avec des images relativement crues, enfin tout ça qu'on présentait comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre place dans un établissement, ou bien des enquêtes faites auprès d'élèves qui montraient quelles difficultés il pouvait y avoir à aborder des thèmes dramatiques relatifs au génocide du XXe siècle entre un cours de gymnastique, enfin d'éducation physique et un cours de cuisine, enfin j'exagère à peine, enfin avec ce morcellement. Et on s'est dit, mais il faudrait un lieu où on puisse, sans jamais sacraliser, mais en évitant de trop banaliser, parce que c'est un peu toujours notre dilemme autour de ces questions d'histoire et de mémoire, où les élèves puissent faire un véritable travail de mémoire. Et puis on a lancé une pétition, on a fait un peu de... Bon, c'est parti un peu comme ça, à l'initiative d'enseignants, et ça a été repris finalement par un responsable de l'instruction publique du canton de Genève qui nous a mandaté pour faire un projet. Lequel projet, pour l'instant, est suspendu à des temps meilleurs sur le plan budgétaire, mais avec une volonté de faire exister sur un plan virtuel et probablement sur Internet d'ici quelques mois, ce projet de maison de la mémoire. Et là, je vais juste vous raconter quel a été notre raisonnement. C'est-à-dire, c'est un peu en termes de territorialisation de la mémoire. On est dans le canton de Genève. Je vous rappelle qu'on est dans je vous parle d'un pays où l'éducation est complètement décentralisée. Donc, je vous parle bien du canton de Genève, d'un canton-ville, et d'une ville particulière, parce qu'elle est particulièrement, multiculturelle. Alors, bon, évidemment, on pourrait se dire, bon, il y a la mémoire officielle, il y a la mémoire traditionnel, par exemple, quand on pense à Genève, on peut penser à la Réforme, et puis on a un lieu magnifique d'invention de la tradition, comme on a parlé d'invention de la tradition au cours de ces journées. C'est le mur des réformateurs qui évoque la Réforme de 1536, mais qui est érigé en 1909. Et c'est quand même intéressant de voir que tous ces objets de mémoire sont datent toujours de ces années charnières entre, disons, 1891 que j'ai évoqué hier et la Première Guerre mondiale. Et puis, on a un problème à Genève, j'ai pas le temps de développer, mais le jour férié officiel, il célèbre la restauration, c'est-à-dire le retour de Genève à l'indépendance. C'est la fin de la période d'occupation française, mais c'est aussi le jour où on remet, où les troupes autrichiennes arrivaient, ils remettent le pouvoir aux quelques familles patriciennes qui détenaient le pouvoir au XVIIIe siècle. Et donc, c'est une négation de la démocratie. Et c'est quelque chose d'absolument étrange, qui est typiquement suisse, c'est-à-dire que notre fête officielle, au niveau cantonal, c'est la restauration. Mais comme c'est le 31 décembre, personne ne le sait. Tout le monde croit que c'est pour la fin de l'année. Et si vous allez discuter sur un plan civique du sens incroyable. Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, on célèbre la restauration alors qu'on a tellement à défendre de valeurs sur le plan de la démocratie? Le problème, c'est qu'on se met tous les salariés à dos, parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'un 31 décembre, c'est un enjeu important par rapport à l'organisation annuelle des ponts de fin d'année. Alors voilà, on continue à tirer au canon le 31 décembre à Genève, et tout le monde croit que c'est pour la fin de l'année, et en réalité, c'est malheureusement tout autre chose. Et il y a quand même quelques milieux très conservateurs à Genève qui, eux, le savent et continuent à faire vivre cette commémoration. Alors bon, évidemment, on a écarté cet aspect-là. Alors évidemment, il y a aussi l'idée de la Genève humanitaire. Hein. Le problème, c'est que ce que je vous ai expliqué hier, on peut pas évoquer la Genève humanitaire sans montrer l'autre face et sans entrer un petit peu dans quelque chose d'un peu plus problématique. Alors, il y a aussi des mémoires populaires. Par exemple, ici, il y a une bataille célèbre, vous la connaissez peut-être, l'Escalade, 1602, les Savoyards catholiques qui attaquent les Genevois protestants. Et comme par hasard, c'est de nouveau au début du XXe siècle que cette commémoration de l'Escalade, qui n'a jamais été officielle, certains voudraient la rendre officielle aujourd'hui, ce qui serait pas très malin, enfin, dans le contexte, enfin, vous imaginez un peu ce que ça peut signifier, mais il se trouve qu'il y a eu cette tradition de la marmite en chocolat, parce qu'il y a une légende qui dit qu'une certaine mère royaume aurait versé de la soupe sur des soldats, elle en aurait tué toute une équipe dans l'escalier qui menait à sa maison, et du coup, en 1902 ou 3, je sais, on a instauré l'idée de la marmite en chocolat que vous pouvez aller acheter à Genève à la fin de l'année. Alors bon, évidemment, ça c'est vraiment la commémoration populaire. Elle nous intéresse pas sur le plan scolaire, si ce n'est sur un plan peut-être anthropologique, parce que c'est aussi la fête qui a remplacé le carnaval que les protestants genevois n'ont pas eu. Enfin, il y a toute une histoire autour de cette escalade. Alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Alors on a aussi une mémoire tragique. Dont on va bientôt célébrer le 75e anniversaire. Excusez-moi, j'ai oublié un petit bout en italien, là, maintenant, parce que c'est du coupé-collé. Il s'agit, le 9 novembre 1932, à Genève avait lieu un meeting fasciste de l'Union nationale qui parodiait le procès des deux principaux dirigeants du Parti socialiste local, l'un des deux ayant la particularité d'être non seulement d'origine ukrainienne, bien que naturalisé suisse, et d'origine juive. Et donc, c'était un procès antisémite. Et la population genevoise, la gauche genevoise a lancé une contre-manifestation en voulant empêcher cette mise en scène fasciste et antisémite. Et donc, et les autorités ont mobilisé l'armée de jeunes recrues des cantons voisins qui sont arrivés complètement dans un état d'impréparation que vous pouvez imaginer. Et ça a été quand même un drame important, puisque l'ordre a été donné de tirer et il y a eu 13 morts et 65 blessés, ce qui n'est pas rien. D'autant plus que c'est un événement qui avait en plus une nature antifasciste. Donc on aurait pu se dire ça peut jouer, etc. Mais jamais les autorités, jamais il n'y a eu un consensus pour une mémoire partagée, critique et humaniste, enfin démocratique, si vous voulez, autour de cet événement. Et il a fallu attendre 1982 pour que ce soit seulement la gauche genevoise, syndicale et politique, qui érige la pierre que je vous montre ici sur cette présentation. Et alors, aux dernières nouvelles, nous avons organisé, quand je dis nous, c'est une association d'histoire du mouvement ouvrier qui a pris l'initiative d'organiser un colloque international le 7 novembre prochain, auquel le président du gouvernement genevois a accepté, qui est en plus le ministre de l'instruction publique et qui est un ancien syndicaliste, membre du Parti socialiste, et je crois que c'est pas non plus innocent, a accepté de venir faire une déclaration. Et donc il est possible que la statut de la mémoire de cet événement se transforme 75 ans plus tard, encore que c'est pas absolument certain, donc on attend de voir. Mais bon, voilà un peu un objet de mémoire qui aurait pu être pris en considération. Alors évidemment, par rapport à ce que je vous ai raconté hier, la frontière genevoise, pour nous, constitue un lieu de mémoire. Alors c'est un peu étrange, parler de lieu de mémoire pour une frontière qui est longue de plusieurs dizaines de kilomètres, mais c'est quand même bien là, c'est le long de cette frontière, que se sont joués des drames, que se sont joués des refoulements ou respectivement des accueils de réfugiés, en particulier de réfugiés juifs, durant la Seconde Guerre mondiale. Et on pourrait s'imaginer de faire de ce lieu, de faire en sorte qu'il incarne une problématique de mémoire relative à la territorialité genevoise. Et puis, je vous donne ici, il y a un autre exemple, alors qui est également intéressant, c'est La ville de Mérin, c'est une cité satellite qui a été construite d'un bloc au début des années 60, de l'autre côté de l'aéroport de Genève, pour ceux qui sont vraiment un petit peu à l'écart. Dans cette cité vivent aujourd'hui un très grand nombre de communautés de nationalités différentes. Et à un moment donné, ils se sont aperçus qu'ils étaient les uns, enfin, elles se sont aperçues, ces communautés, qu'elles étaient les unes et les autres porteuses d'un très grand nombre de mémoires dramatiques. Et d'où l'initiative qui a été prise, avec le soutien des autorités, de créer un jardin des disparus. Alors, à l'initiative en particulier d'une rescapée argentine des pires lieux de torture de la dictature argentine. Et donc ils ont symboliquement planté des arbres et ils ont créé ce monument que vous avez là. Et chaque année, il y a une journée des disparus qui est un moment un peu d'échange autour du vécu de ces différentes communautés. Vécu qui porte vraiment sur tous les drames, vraiment du XXe siècle, tous les continents, etc., etc. Et donc là, il y avait donc l'idée que vraiment, on est dans une configuration territoriale qui est porteuse d'un très grand nombre d'expériences traumatiques qu'il serait intéressant de ne pas enfouir et qu'il serait intéressant de reconnaître, mais pour en faire un travail, je dirais, de synthèse, pour en faire un travail dans une perspective croisée, et pas pour enfermer chacun dans son propre drame ou dans ses propres particularités. Alors, notre projet de maison de la mémoire, c'était celui-là. L'idée, c'était de mettre à disposition de tous les acteurs de l'école un lieu entre école et musée qui ne soit ni école ni musée, un lieu d'études, de rencontres, de débats et de formation, un lieu permettant un travail de mémoire dans un contexte qui soit différent de la vie scolaire, et puis je dirais un lieu qui encourage des réflexions et des actions pédagogiques pour dépasser le piège de la concurrence des victimes. Et en particulier, ça nous rapporte aussi à la présentation de ce matin, à propos des Harkis, l'idée y était de faire de ce lieu un lieu d'histoire orale. C'est-à-dire un lieu où on puisse entendre des témoins et mettre en perspective, toujours dans la dynamique histoire-mémoire, mettre en perspective leurs propos avec les connaissances d'histoire que l'on peut avoir. Puis je dirais un lieu aussi qui aurait pu être un lieu d'encouragement à la création, à la pratique, non pas d'histoire orale, mais en tout cas dans un premier temps, à la pratique de recueil de sources orales. Parce qu'on a fait un certain nombre d'expériences avec des élèves qui sont allés dans des maisons de retraite ou auprès de leurs familles, auprès de témoins de différents, mais, et pas seulement sur des affaires, enfin sur des questions dramatiques. Je racontais hier d'une classe comme on les appelle en rupture, en situation extrêmement difficile, qui a pu être un petit peu remise à flot, si vous voulez, à travers un travail où ils sont allés demander dans une maison de retraite à des personnes âgées comment c'était l'école à leur époque. Et à un moment donné, on se demandait on avait fait le pire, parce que ces personnes âgées racontaient, ah oui, notre temps faisait aussi ceci, puis elles s'en rajoutaient et tout, puis les élèves, ils étaient un peu déconcertés, c'est une expérience qui a permis de remettre vraiment cette classe à flot et de l'intéresser à un travail d'histoire, un travail d'études sur le passé, même si c'était en l'occurrence ici sur le passé scolaire. Donc encourager des pratiques de recueil de sources orales. J'appelle pas encore ça de l'histoire orale, parce que l'histoire orale, c'est autre chose. Je pense qu'il faut être assez précis là-dessus. On peut aussi faire des petites démarches d'histoire orale après, mais d'abord, on doit recueillir le matériau. Et puis, alors, je finis là-dessus. Il a fallu qu'on se propose des thèmes. On a appelé ça des piliers, c'est-à-dire voilà, on va essayer de travailler. Alors c'est pas fermé, c'est pas définitif, mais c'est un peu l'état de notre réflexion. Et on s'est dit bon, d'abord, en effet, il y a une proximité avec les événements de la Shoah qui nous touche à travers cette histoire de frontières. Bon, il y a plein d'exemples, plein de récits. On peut être touché, par exemple, le lieu de mémoire le plus proche relatif à la Shoah de Genève, ce serait le mémorial des enfants d'Izieux. 2 heures en quart. Si ces enfants avaient pu être sauvés, ils seraient allés où? Probablement, je ne vois pas où ils auraient pu aller ailleurs qu'en Suisse, parce que l'Espagne était une issue beaucoup trop compliquée à ce moment-là. Donc, on a bien un rapport avec Izieux, avec ses enfants. On l'a d'autant plus qu'il existe une maison analogue en Italie, à Nonantola, près de Modène, où des enfants juifs ont été sauvés, à une exception près, malheureusement. Et ces enfants-là sont venus en Suisse. Et donc, on a d'ailleurs un projet de triangulation entre France, Italie, enfin, Isium, Nonantola et Genève, pour essayer de mettre ça en évidence. Donc, premier pilier, en effet, la question de la frontière, cette question dramatique de l'accueil ou du refoulement de réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième aspect, c'est cette pluralité des mémoires apportées par toutes les migrations qui ont successivement composé la population genevoise. D'ailleurs, pas seulement dans l'époque contemporaine incarnée par le Jardin des Disparus, parce que ça remonte évidemment à bien plus en arrière, et ça remonte évidemment à la réforme elle-même. On s'est dit qu'on voulait absolument créer un troisième pilier qui soit celui d'une mémoire un peu plus en positif, pour pas non plus s'enfermer dans une histoire scolaire qui soit une histoire des drames, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible, et puis que l'histoire n'est pas faite, heureusement, que de drames. Et donc, l'idée, c'était d'aller interroger aussi par rapport à un second XXe siècle qui a beaucoup de peine à entrer dans les pratiques scolaires, même si le temps passe. L'idée, c'était de voir quelles avaient été les conditions des transformations de la vie quotidienne et des droits des peuples, des femmes, des minorités, des droits des enfants également, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est apparu dans le second XXe siècle. Un pilier autour de la mémoire de la conquête des droits, ce que ça implique comme engagement, comment ça se passe, etc. Enfin, comment ça s'est passé. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, sur ces trois thèmes, il y a donc un potentiel de possibilité de faire pratiquer notamment des activités de recueil de sources orales. Voilà, moi je vous avais prévenu des petits moutons, je termine là-dessus. Parce qu'évidemment, c'est aussi par rapport à ça que nous avons à travailler. Donc la fameuse affiche que j'ai évoquée hier, vous l'avez ici. Je ne peux pas m'empêcher de mettre en relation avec les fameux trois Suisses. C'est-à-dire que s'il y a trois moutons, ce n'est pas par hasard. Et quand on travaille sur les symboles, il faut être attentif à ce genre de choses. Et puis bon, c'est ce qui est sorti dans le Monde la semaine passée, c'est qu'en effet, cette affiche populiste suisse a été reprise maintenant par des néo-nazis allemands, ce qui montre bien quelle est la dynamique qui a été lancée par ce parti qui est apparemment appelé à devenir le premier parti de Suisse et qui empoisonne passablement la démocratie helvétique dans ses réalités et non pas dans sa mythologie. Voilà.